7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et oui, hier soir, les Européens se sont finalement entendus pour consacrer jusqu'à 540 milliards d'euros face aux ravages économiques du coronavirus. Bonjour Patrick Martin-Grenier.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des affaires européennes et internationales, vous enseignez à Sciences Po et à l'INALCO. Alors tout d'abord, expliquez-nous en quoi consiste cet accord.
Alors écoutez, l'accord qui couvre 540 milliards d'euros, c'est une fusée à trois étages en quelque sorte. Il y aura tout d'abord le financement de l'activité partielle, le chômage partiel à hauteur de 100 milliards d'euros, c'est ce qui avait déjà été proposé par la Commission européenne, mais avec une garantie de 25 milliards de la part des États. C'est-à-dire que les États vont apporter leur garantie à cette activité. Tout le monde est d'accord sur ce point, d'ailleurs tout le monde était d'accord avant sur cette question. Il y a également un apport de 200 milliards d'euros de prêts aux entreprises de la part de la Banque européenne d'investissement, qui est une grande banque européenne. Là aussi, en réalité, tout le monde était d'accord, sans que pour autant on mette en cause l'autonomie financière de la Banque européenne d'investissement, ce qui veut dire que ce n'est pas l'Europe qui va garantir ses emprunts, mais ce sont les États en particulier qui vont garantir à hauteur de 25 milliards d'euros. Donc c'est préserver les liquidités de la Banque européenne d'investissement. Là aussi, tout le monde était d'accord. Là où ça a chopé, c'était le mécanisme de stabilité européen, mécanisme européen de stabilité à hauteur de 240 milliards d'euros qui sera un prêt aux États. Et c'est là où ça a chopé en partie, parce que vous savez que le mécanisme européen de stabilité a été créé pour apporter de l'argent frais à la Grèce au pire moment de la crise financière. Mais la contrepartie, c'était une réforme de l'économie, c'était une baisse des effectifs des fonctionnaires, c'était une restructuration de la dette. C'était une restructuration de l'économie, voire éventuellement une baisse des salaires des fonctionnaires, une baisse des pensions des retraités, et tout cela, naturellement, l'Italie n'en voulait pas. Là, c'est évident. Et donc, sur ce mécanisme européen de stabilité, l'Italie ne voulait absolument pas, comme la Grèce en 2010-2012, être mise sous tutelle de la Banque Centrale Européenne et de la Commission. Donc, ça a chopé sur ce point, et on n'a pas véritablement, finalement, décidé, puisqu'on a dit que ce montant de 240 milliards d'euros du mécanisme européen de stabilité pouvait aller jusqu'à financer jusqu'à 2% du PIB des États, mais uniquement pour des dépenses de santé et non pas pour des dépenses économiques. Et cela équivaut en quelque sorte à 36 milliards d'euros pour l'Italie, ce que aujourd'hui, même ce matin, l'Italie considère que ce n'est pas assez, mais elle a été dans l'obligation de se rallier à cette proposition, car évidemment c'est mieux que rien.
Et oui, alors c'est ça en fait le problème, Patrick Martin-Genier, c'est que 2% ça paraît assez faible, ça veut dire, donc vous l'avez dit, 36 milliards pour l'Italie, ça veut dire pour donner une idée, on estime qu'après la crise, eh bien la France pourrait avoir un déficit du produit intérieur brut de 120%, ça veut dire qu'il y a 20% qu'il va falloir financer pour assumer les conséquences de la crise du coronavirus. Là-dessus, eh bien, l'Europe n'en prendrait que 10%, 2%, c'est très peu, non ?
Oui, mais c'est très peu parce que de toute façon, qu'il s'agisse de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande ou de l'Autriche, ils ne veulent pas s'engager dans la restructuration des dettes des États. Ils considèrent que même si la Commission a fait preuve de souplesse, vous savez, dans les fameux 3% d'endettement de déficit, déficit des PIB, eh bien, certains pays restent rigoristes et ne veulent pas s'engager plus avant sur la prise en charge d'une dette de la part des États. En d'autres termes, on ne veut toujours pas mutualiser au niveau européen les dettes de différents États, dont on considère qu'ils sont incapables de gérer correctement leurs finances publiques. Et c'est pour ça d'ailleurs, pourquoi dit-on, il y a un accord, tout le monde estime que cet accord est formidable, c'est un grand jour pour la solidarité européenne. En réalité, pourquoi a-t-on réussi hier soir? C'est tout simplement parce qu'on a mis de côté tout ce qui était des points de divergence très importants, comme les fameux, ce qu'on a appelé les Corona Bonds, c'est-à-dire la mutualisation au niveau européen de la dette des États, ce dont ni l'Autriche, ni les Pays-Bas, ni l'Allemagne ne voulaient entendre parler. Donc on a laissé de côté ce point de divergence très grave, ce qui a permis en effet d'aboutir à cet accord hier.
Peut-on vraiment parler dans ce cas-là d'un accord satisfaisant dès lors qu'on est sur des sommes assez faibles? Je le répète, 2% du PIB au maximum, c'est très largement insuffisant pour faire face à la crise qui s'annonce.
Oui, on est d'accord, c'est largement insuffisant. Il y a aussi une ambiguïté sur le mouvement, sur le mécanisme européen de stabilité. Mais vous savez, je reprends.
Il faut expliquer pourquoi il y a une ambiguïté, Patrick Martin-Jeunier.
Oui, eh bien, l'ambiguïté, c'est qu'en réalité, on a mis sur la table, on va parler éventuellement d'une mutualisation de la dette européenne, les fameux Corona Bonds. C'est la seule chose que demandait l'Italie. Il voulait que le pays voulait qu'on fasse un effort sur ce point. C'est-à-dire, on a dit éventuellement la possibilité de créer un fonds de relance, un fonds de restructuration, de reconstruction de l'Europe d'après le coronavirus. Et éventuellement, on y mettrait 500 milliards d'euros. Mais c'est une ambiguïté. Pourquoi c'est une ambiguïté? Parce que finalement, chacun va tirer de cet accord d'hier soir ce qu'il a envie d'en tirer. Et M. Bruno Le Maire, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il n'y a pas de bon compromis sans des ambiguïtés. Autrement dit, c'est un accord qui est complètement ambigu. L'Allemagne considère qu'elle a obtenu satisfaction. Les Pays-Bas considèrent qu'il n'y aura pas de danger pour les finances publiques européennes, alors que la France, l'Italie et l'Espagne considèrent que c'est un instrument qui va leur permettre de relancer leurs économies lorsque cette crise sanitaire sera passée. Donc, en d'autres termes, on a réglé ce qui était le plus urgent. On met sur la table 540 milliards d'euros de la part des institutions européennes, auxquelles il faut rajouter quand même les 1 000 milliards mis dans les circuits financiers par la Banque Centrale Européenne. Donc, on a quand même là...
Alors, comment ça va fonctionner? Parce que là, il faut expliquer aussi, Patrick Martin, Ingénieur, comment vont se ventiler donc ces 540 milliards et puis ces 1000 milliards supplémentaires, les sommes donnent le tournis, mais eu égard à l'ampleur des problèmes économiques qui vont être causés par cette crise du coronavirus, ils ne sont pas si importants que cela.
Non, c'est vrai. Bah, par exemple, lorsque vous regardez les 240 milliards d'euros du mécanisme européen de stabilité, c'est clair que c'est ça, uniquement 2% des PIB des États. Encore une fois, c'est 36 milliards pour l'Italie. Et cela est destiné à couvrir uniquement des dépenses de santé et non pas les conséquences économiques du coronavirus. Ce qui fait que c'est très peu et encore sous cette certaines conditions liées à l'endettement des États. Et qui criait victoire hier, c'était le ministre des Finances néerlandais qui disait « Il est hors de question de consacrer les 240 milliards d'euros du mécanisme européen de stabilité pour les conséquences économiques, ce sera uniquement pour lier à des dépenses de santé. » Donc ça, effectivement, ce sera extrêmement limité, donc ça reste modeste. Le financement du chômage partiel de la part de la Commission européenne, c'était de toute façon déjà acté. C'est la Commission européenne qui avait lancé cette initiative. Donc là, il n'y a aucun souci. Les États étaient d'accord, mais encore une fois, ce sera limité dans le temps. Quant à la Banque européenne d'investissement, ce sont des prêts aux entreprises. Ces prêts aux entreprises, sous certaines conditions, il faudra bien de toute façon les rembourser. Mais il y aura on préservera les liquidités de la banque. En d'autres termes, on ne veut pas mettre en cause la solidité de la Banque européenne d'investissement. Simplement, 25 milliards d'euros seront garantis par les États. En d'autres termes, on va limiter les garanties d'emprunt par la Banque européenne d'investissement. Donc ça, c'est les côtés politiques, si j'ose dire. Ensuite, il y a l'aspect Banque centrale européenne, 1 000 milliards d'euros. Vous savez que Christine Lagarde avait été critiquée parce que dans un premier temps, elle n'avait pas voulu injecter autant d'argent dans l'économie. Et là, il s'agira d'un rachat de dette des États. Donc, on va racheter des obligations de l'État italien, on va racheter des obligations également des entreprises. C'est pour financer l'endettement des États par cet organisme monétaire qu'est la Banque Centrale Européenne. Donc, chacun a son rôle. La Banque Centrale va racheter des obligations, va racheter de la dette des États. C'est ce que voulaient certains États. Et quant au reste, ce sera un financement des entreprises, un financement du chômage partiel. Et pour le mécanisme européen de stabilité, ce seront des prêts directs aux États qui en auront besoin pour faire face aux conséquences de la crise.
Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier pour cet éclairage. Deux ouvrages que vous avez publiés tous deux aux éditions Studirama, « L'Europe a-t-elle un avenir ?» et « Vers une nouvelle gouvernance mondiale ». Il est 7h25 sur France Culture.